France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui, la sexualité dans l'Antiquité romaine. Pourvu que tu t'abstiennes de femmes mariées, de veuves, de vierges, de jeunes hommes et d'enfants de conditions libres, aime tout ce qui te plaît. Plaute. Ans d'histoire. Les Romains étaient plus pudiques qu'on le croit et n'aimaient pas parler de leur sexualité, cette nécessité de la nature, comme l'appelait Cicéron, qui trouvait obscène de révéler ce qui relevait de la vie privée. Quelle folie d'avouer au grand jour ce que cache la nuit, écrivait le poète latin Ovide, dont l'art d'aimer fut pourtant un des plus vieux textes érotiques de l'histoire. Mais la sexualité des Romains était sans doute moins débridée que celle que décrivait Ovide ou le satyricon de Pétrone et moins extravagante que celle de quelques empereurs débauchés. Claude ou Néron, qui allait plus souvent au bordel qu'au Sénat, Caligula qui couchait avec sa sœur ou le pire de tous, le vieux Tibère, qui dans sa villa de Capri aimait se baigner avec de jeunes esclaves qu'il appelait ses petits poissons.
En d'ici, petits poissons ! C'est fini pour aujourd'hui ! Caligula ?
Oui, seigneur.
Pourquoi répands-tu de telles monstruosités sur moi, Rome ?
Il n'en est rien, jamais.
Il n'en est rien, selon toi. En public, rappelle-toi ceci. Les petits poissons m'aiment l'innocence, Caligula. Je protège leur innocence dans le monde infect où nous vivons. Les Romains ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils sont jouisseurs. Ils jouissent du pouvoir, de l'argent, des plaisirs, de la femme de leurs amis. Eh oui, je suis un vrai moraliste. D'une aussi grande rigueur qu'un caton. Mon destin est de mener des porcs. En prenant de l'âge, je suis devenu empereur d'une porcherie.
Géraldine Puccini-Delbey, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était le vieux Tibère dont vous parlez dans votre livre « La vie sexuelle à Rome » qui vient d'être publié chez Talendier, un livre passionnant dans lequel, bien sûr, vous décrivez, parce qu'on en parle souvent, les extravagances sexuelles de Tibère, mais aussi de Caligula, de Néron et de Claude. Et pourtant, en vous lisant, on a l'impression que c'était un peu des exceptions et que finalement, les Romains étaient assez pudiques, n'aimaient pas en tout cas parler de leur vie sexuelle.
Bien sûr, les empereurs sont des exceptions. L'Antiquité nous a légué le lien entre sexualité, silence, retenue. Le vocabulaire le montre. Les Romains sont ceux qui ont inventé la notion de partie honteuse, ruiranda, pudenda en latin.
Pudor aussi.
Pudor, ouais. Pudicitia. Donc, de la fondation légendaire de Rome jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, hein, nous n'avons aucun discours romain à proprement parler sur la sexualité, sur les rapports entre hommes et femmes. Il faut donc attendre très très longtemps pour que se dégage un discours qui associera le silence à la sexualité.
D'où la difficulté d'ailleurs de votre travail, Géraldine Puccini-Delbey, parce qu'il y a relativement peu de textes, il y en a quelques-uns, on les évoquera, et on découvre qu'en matière de sexualité, si on n'a pas inventé grand-chose depuis les Romains, il se faisait en tout cas une idée très différente de la nôtre. Hein. Il ne distinguait pas comme nous l'homosexualité, l'hétérosexualité et la bisexualité. La différence se faisait en fonction des classes d'âge.
Tout à fait.
Pas des classes d'âge, surtout de la classe sociale.
Des classes d'âge et des classes sociales essentiellement. Donc les valeurs en matière de sexualité sont tout à fait relatives. Les nôtres sont relatives à notre époque. Les Romains en avaient d'autres. Donc les notions qui nous sont familières sont des concepts qui ne sont pas très pertinents pour tenter d'expliquer la sexualité romaine. Donc nos trois catégories qui sont fondées sur la différence biologique, hétérosexualité, bisexualité ou homosexualité ne sont pas des catégories pertinentes car elles n'existent pas encore à l'époque. Les Romains ne possèdent pas dans leur vocabulaire de termes qui correspondent à ces trois catégories modernes.
Et d'ailleurs, il n'y a pas de tabou dans ce domaine. L'homosexualité, comme en Grèce, n'est pas du tout condamnée. Mais en revanche, là où on arrive aux classes sociales, c'est qu'elle se pratique différemment, la sexualité se pratique différemment selon que l'on appartient à la noblesse, à l'aristocratie, ou si on est un homme libre, ou si on est un esclave ou quelqu'un de classe inférieure.
Les relations sexuelles s'expliquent essentiellement, donc, comme vous l'avez bien dit, par l'appartenance aux classes sociales. Le modèle qui nous a été transmis, c'est un modèle phallocentrique qui est mis en place pour le citoyen de condition libre. Et c'est par rapport à ce citoyen de condition libre que les relations sexuelles peuvent s'expliquer.
Alors effectivement, l'homme libre, par exemple, pénètre, hein, c'est l'esclave qui est pénétré. Hein, c'est très clair dans toutes les relations, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles, car également, l'homme libre, c'est au fond autour de sa sexualité qu'a été construite, la sexualité des Romains, et pas autour de la femme. Hein, même libre, la femme, c'est sur le plan sexuel quelqu'un dont la sexualité n'intéresse pas grand monde.
Oui, on pourrait dire qu'elle est simplement un moyen, c'est-à-dire un moyen de reproduction. La femme de condition libre est élevée pour être une future épouse et une future mère.
Et alors les hommes étaient, les hommes libres toujours, étaient les seuls par exemple autorisés à avoir des rapports sexuels avant le mariage, comme le futur empereur Octave Auguste, encouragé par sa mère à s'initier au plaisir de l'amour.
Il est grand temps que tu apprennes les arts virils, l'art de combattre, l'art de copuler, l'art de dépecer les animaux.
J'ai le temps pour apprendre tout ça.
Octave, chérie, tu as pénétré quelqu'un,
mère,
déjà?
Je t'en prie.
Il n'y a aucune raison que tu t'inquiètes, c'est facile. Une fois en selle, si je puis dire, ça viendra naturellement, tu verras.
Mère, je
non,
peux pas.
Tu vas pénétrer quelqu'un aujourd'hui ou bien je brûle tous tes livres dans la cour.
Va-t'en, va-t'en, c'est pas pour toi ici, c'est pas un bordel, un soldat ici, allez, sors de chez moi.
Du calme, ma belle, du calme. On vient pour mon jeune maître. Et on a plein d'argent.
Qu'est-ce qui ferait plaisir à ce jeune homme?
Il est buceau.
Oh, je suis sûre que nous avons ce qu'il faut. Celui-ci vient juste de débarquer.
Celle-ci, ça ira.
Egeria, va te préparer.
Et c'était l'extrait d'une excellente série américaine, Rome, qui a été récemment diffusée sur Canal+, le dépucelage du jeune Octave dans un lupanar. Octave, c'est un homme libre, donc il pénètre, hein, que ce soit une femme ou un homme. Et alors, dans un bordel, hein, ça c'était vraiment des institutions qui étaient tout à fait admises à Rome. On était peut-être pudique, mais les prostituées étaient considérées comme nécessaires, au fond, à la vie de la cité, Géraldine Puccini-Delbey.
Tout à fait, la prostitution est une pratique tolérée et même, je dirais, encouragée par la société. C'est une institution légale. Les prostituées paient leur impôt à l'État. Donc, c'est une profession tout à fait reconnue et encouragée. Le groupe des femmes que constituent les prostituées est un groupe qui permet aux citoyens romains d'assouvir ses instincts. Hein, qu'il ne pourrait pas faire avec un groupe de femmes qui lui est interdit, c'est-à-dire les femmes qui appartiennent à sa classe sociale.
Et mariées, hein, les matrones.
Et mariées, ouais. Ainsi que les jeunes filles qui doivent arriver vierges au mariage.
Cela dit, les prostituées n'étaient pas seulement forcément des esclaves, c'était aussi, on dit même que Messaline, mais elle transgressait vraiment toutes les règles de la cité, Messaline, l'impératrice Messaline, allait régulièrement se prostituer dans les lupanars.
Bon, Messaline est un cas à part. Bon, elle représente la transgression la plus grave pour une femme, hein, en se prostituant alors qu'elle appartient à la cour impériale. Donc elle transgresse non seulement la pudeur dévolue au sexe féminin, mais elle transgresse aussi le pouvoir qu'elle représente. Il n'est pas certain qu'elle se soit réellement prostituée, hein. Il faut prendre avec précaution les textes des historiens. Toujours est-il que sa figure est construite de manière à montrer montrer que la femme, lorsqu'elle appartient aux hautes sphères de la société, lorsqu'elle se débauche, corrompt en fait toute sa société, corrompt le pouvoir politique, et que la décadence politique s'illustre par la décadence des mœurs qui est essentiellement représentée par les femmes.
Et alors elles n'avaient pas le droit, sauf quand elles étaient prostituées, elles avaient d'ailleurs leur propre costume, leur propre tenue, elles étaient très reconnaissables dans Rome, dans ces lieux qui étaient les tavernes.
Oui, elles portaient de magnifiques tissus de soie, des couleurs variées, notamment le jaune, qui est la couleur particulière aux vêtements de la prostituée et qui permet donc de la reconnaître dans la rue par rapport à l'épouse respectable qui, elle, portera la stola, c'est-à-dire une longue robe qui descend jusqu'aux pieds et qui est en principe de couleur blanche.
Dans la rue, dans les rues chaudes de Rome, et même, alors vous le dites, c'est assez extraordinaire, sous Constantin, qui était le premier empereur chrétien, dans une espèce d'héros sainter qu'on appelait le pornéion.
Oui, donc c'est la première fois que, au niveau de l'État, un endroit est organisé de manière publique pour la prostitution.
Alors des lieux réservés aux hommes qui venaient s'y dévergonder, mais pas à leurs épouses dont la vie devait être exemplaire et la sexualité se passait exclusivement dans le cadre du mariage, toujours précédé par la consultation des augures.
La couleur du sang de victime est pour nous d'un heureux présage. Les dieux sont favorables à cette union. Lycas, prends par la main ton épouse. Et souviens-toi être uni et fidèle à lui pour toujours. Comme conjoint, souviens-toi que ce goût que tu as pour les garçons, il faut, par obéissance, l'oublier. Chez nous, le nouveau mari n'a pas cette liberté.
Tu es trop bon d'honorer nos noces de ta présence, César. Je veux maintenant offrir la bénédiction du tout-puissant César à ce couple d'époux à qui le bonheur sourit. Où avez-vous installé la couche nuptiale ?
J'ai appris une chose assez extraordinaire en vous lisant Géraldine Puccini-Delbé, c'est que la coutume qui veut que le mari transporte son épouse dans ses bras quand elle entre chez lui ou sur la couche nuptiale, ben ça vient de Rome.
Tout à fait. Il y a plusieurs interprétations possibles. Une qui est assez répandue veut que l'on associe cette pratique à un mythe très ancien qui est le mythe de l'enlèvement des Sabines, qui est raconté par Tite-Live au livre 1 de son histoire romaine. Romulus, lorsqu'il fonde Rome avec ses compagnons, se trouve, d'après Tite-Live, sans femme, sans compagne. Et pour pouvoir bien sûr perpétuer la cité, il faut absolument des femmes qui engendrent, qui procréent. Donc il essaie de faire des alliances matrimoniales avec les peuples voisins, mais tous refusent des unions avec de simples aventuriers qu'ils considèrent comme dangereux. Et donc, ne pouvant se procurer des femmes par la voie légale, par la voie légitime, ils vont employer la force, la violence. Ils vont inviter à un spectacle organisé donc à Rome les peuples voisins, en particulier les Sabins, vont venir avec leurs femmes et leurs filles, leurs enfants. Et les Romains vont les enlever de force, bien sûr, pendant le spectacle. Et c'est ainsi que la légende raconte que les premières unions conjugales ont eu lieu donc par la force, le rapt et bien entendu par le viol.
Ce que le grand historien Paul Veyne appelait le viol légal. Alors vous avez employé aussi un mot, Géraldine Puccini-Delbé, c'est la procréation, car la finalité du mariage et dans le mariage de la sexualité, c'est d'abord de procréer, c'est pas le plaisir.
C'est d'abord et avant tout une sexualité de reproduction. D'ailleurs, dans les formules légales qui sont dites lors de la cérémonie de mariage, il y a la formule usuelle, on se marie pour avoir des enfants.
Et pas pour autre chose. Le plaisir, par exemple, féminin, entre peu en ligne de compte. En fait, elle est là pour la reproduction. Même le mari n'éprouve pas forcément du plaisir, mais alors elle, pas du tout. À la limite, c'est même déconseillé ou mal vu.
C'est presque déconseillé. Nous avons un très beau texte de Lucrèce dans son poème sur la nature où il dit que les épouses doivent s'abstenir de tout mouvement voluptueux pour favoriser la conception, comme si le fait de bouger pendant l'acte sexuel pouvait interdire la procréation. Ceci appartient à la prostituée.
C'est très, au fond, c'est la morale chrétienne en matière de sexualité. Les chrétiens n'ont rien inventé. Alors, il y a aussi autre chose de très curieux, c'est que cette sexualité se pratique, et c'est recommandé aussi, uniquement dans l'obscurité.
Oui, il y a plusieurs interdits qui entourent la relation conjugale. Faire l'amour de jour est interdit. Faire l'amour nu est également interdit.
Oui,
Donc il faut se couvrir, se voiler et faire l'amour de nuit.
Il y a une reproduction sur la couverture de votre livre qui est assez célèbre. Ce sont des fresques qu'on a découvertes à Pompéi et un couple qui fait l'amour. Mais alors on voit que la femme porte un soutien-gorge. Il n'est pas question de le retirer. Alors, si le plaisir quand même, il y a quelques auteurs, il y a Ovide qui considère qu'il est absolument scandaleux que les femmes n'éprouvent pas autant de plaisir que les hommes. À quel âge se mariait-on ?
L'âge légal pour la jeune fille est 12 ans et pour le garçon 14 ans.
Alors, c'est la procréation. A-t-elle enseigne, d'ailleurs, vous le dites aussi, qu'il était considéré comme scandaleux, justement, que le mariage d'une femme de plus de 50 ans, je crois, ou d'un homme de plus de 60 ans, parce que, justement, en principe, il n'y avait plus de procréation derrière le mariage.
Oui. C'est la première finalité.
Alors, le plaisir de l'homme, c'est pratiquement le seul qui compte, pas de la femme, et l'homme peut aussi aller chercher son plaisir ailleurs, et notamment auprès de ses esclaves.
N'aie pas cet air effarouché, Ligie. Je ne suis pas sans cœur, je ne suis pas un de ces militaires brutaux qui se précipitent sur leur proie comme la pierre d'une catapulte.
Tu n'as qu'à sourire, ne pense plus à rien et avant même de
t'en rendre... Je n'ai qu'une seule pensée. Je veux repartir chez moi, je t'en conjure, daigne me laisser quitter ces lieux au plus vite.
Profite de ta beauté, laisse-moi en profiter, aime, tu es faite pour aimer.
Puisque je suis ton esclave, tu as à présent tous les pouvoirs, tu es le maître. Un mot et j'obéis, je m'incline.
Oui, tu es à moi. Tu sais que j'ai le droit de te faire conduire chez moi et de te faire fouetter jusqu'à ce que tu me déclares ton amour.
Alors n'attends pas. Fais de moi ce que tu voudras.
Garde. Conduis cet otage chez mon oncle Pétrone et confie-la à Anaxandre, le responsable des esclaves. Oui, Vinicius.
Le maître, vous l'écrivez, Géraldine Puccini d'Elbé, le maître, en fait, avait un droit de cuissage absolu sur ses esclaves.
Oui, l'esclave n'a pas de corps qui lui appartienne. Le corps de l'esclave appartient en totalité au maître qui peut en jouir selon son bon vouloir, de manière en théorie illimitée.
Et alors, il est au service du plaisir de son maître. Il y a même des écoles dans lesquelles on apprend à l'esclave à satisfaire les plaisirs du maître, ce qu'on appelle les pueri delicati, c'est ça ?
Voilà, les esclaves favoris, parce que le personnel servile est très nombreux dans une grande maison. Hein, dans les familles très riches, les esclaves sont très très nombreux, parfois des centaines. Et parmi ces centaines d'esclaves, il y en a un ou quelques-uns qui sont les esclaves favoris du maître avec qui il dort, hein, il partage sa couche.
Et vivre
aux côtés de l'épouse, légitime.
Et l'épouse n'a rien à dire là-dedans.
L'épouse n'a rien à dire.
Dans certains cas même, on dit que c'était les épouses qui cherchaient les esclaves, ou en tout cas les concubins ou concubines, parce que là aussi, l'esclave, ça pouvait être des rapports homosexuels qu'on entretenait avec les esclaves, à condition toujours de se comporter en maître, c'est-à-dire effectivement de pénétrer et pas l'inverse. D'ailleurs, dans les rapports sexuels, il y a une chose qui est interdite, ou en tout cas proscrite pour ce qui concerne un homme libre, c'est précisément d'être pénétré.
Oui, tenir le rôle passif, c'est l'inpudicitia, c'est-à-dire le fait de perdre sa masculinité. C'est la transgression la plus grave pour un homme.
Y compris la fellation, hein, qui est insupportable.
Oui, qui est la transgression la plus grave.
La plus totale. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce qu'était la sexualité justement des esclaves eux-mêmes ? Parce que là, pour l'instant, on ne parle pratiquement que de celle des hommes libres ou de leur rapport avec les esclaves. Mais la vie sexuelle des esclaves, qui était quand même très nombreux, vous le rappelez, à Rome.
Oui, nous avons très très peu de textes sur la vie des esclaves, quelques textes chez Caton et chez Columelle, ainsi que chez Varron, qui sont des auteurs qui se sont intéressés à l'agriculture et qui ont par ce biais parlé un tout petit peu de la vie des esclaves dans les domaines ruraux. Ils vivaient ensemble, parfois pouvaient être séparés par le maître. Les relations étaient certainement permises entre les esclaves d'un même domaine, mais interdites entre des esclaves qui appartenaient à des maîtres différents.
Et surtout, totalement interdit pour un esclave d'entretenir des rapports avec une femme libre, avec une matrone, avec une femme mariée. Vous citez un cas d'esclave qui a été cité par un auteur que vous connaissez bien, Géraldine Puccini d'Elbé, qui est Apulée. C'est la mort d'un esclave qui avait osé coucher avec une femme libre.
Oui, la société romaine est une société très hiérarchisée. Donc il y a trois couches sociales très distinctes, les hommes et les femmes de condition libre, et ensuite les affranchis et au bas de l'échelle les esclaves. esclaves. Et il y a très peu de liens entre ces trois classes, surtout lorsqu'il s'agit d'un esclave mâle vis-à-vis d'une femme de condition libre. C'est d'une relation sexuelle très prohibée. Et dans le roman d'Apulée, il s'agit bien sûr d'une histoire inventée, d'une histoire fictive. Nous avons le cas d'un esclave tombé amoureux d'une femme de condition libre. Et le maître de l'esclave l'a puni avec un châtiment extrêmement sévère. Il l'a fait dénuder, son corps a été enduit de miel, exposé au soleil, et les fourmis attirées par l'odeur du miel sont venues dévorer très lentement le corps de l'esclave. Donc c'est un supplice affreux qu'a connu l'esclave pour avoir seulement désiré une femme de condition libre.
Ça prouve que le maître n'a pas seulement un droit de cuissage sur les esclaves, il a un droit de vie et de mort. D'ailleurs, il peut aussi, en tout cas on tolère que, parce que sa femme à lui en revanche se doit d'être fidèle, on comprend tout à fait qu'il tue l'amant, peut-être même sa femme, si jamais justement il découvre l'adultère.
L'adultère féminin est extrêmement réprimé dans cette société. Cela s'explique par le fait que l'épouse, surtout dans les hautes sphères de la société romaine, doit transmettre une descendance légitime pour la gens, pour la famille de son mari et pour l'État. Donc pour éviter une souillure physique, l'épouse se doit d'être absolument fidèle.
Alors sinon, quand même, c'est une société qui permet beaucoup de choses sur le plan sexuel, sauf une, qui est le tabou absolu, c'est l'inceste.
Mm-hmm. Oui, l'inceste est la transgression la plus grave. Les auteurs qui se sont intéressés à cette question l'expliquent par rapport à l'ordre divin. C'est un crime contre la nature et contre l'ordre des dieux.
Alors c'est un crime qui a été quand même pratiqué avec de grands et de mauvais exemples. Vous citez Claude, par exemple, qui a épousé sa nièce Agrippine.
Mm-hmm. Et il a dû faire une législation spéciale pour pouvoir justement être autorisé à épouser sa nièce.
Il n'a pas eu de chance d'ailleurs, parce que c'est sa nièce qui va le faire assassiner. Autre exemple aussi très célèbre, c'est Caligula avec sa propre sœur Drusilla.
Oui, et également Néron avec sa mère. Donc ce sont des empereurs qui ont cherché une sexualité très transgressive et qui l'ont trouvée dans ces relations incestueuses.
En transgression dont Caligula justement était coutumier, comme celle qui lui avait fait construire à Rome un bordel pour y prostituer les femmes de l'aristocratie romaine.
Longinus, magicien de mes finances, j'ai une question pour toi. Qui sont les hommes les plus riches d'Europe? Les macros? Qui sont les putains les plus lascives de Rome? Les femmes des sénateurs. Donc, nous tenons un bordel impérial et voici équilibré le budget de l'État. Pour 5 petites pièces d'or, bienvenue au bordel impérial. Choisissez parmi les plus belles chairs de l'Empire. Occasion unique car la plupart de ces femmes sont d'honorables épouses, épouses de sénateurs. Putain à la réputation irréprochable.
Il fait des prostituées de nos femmes et de nos filles. Il humilie le Sénat et se concilie l'armée.
Mais c'est pour cela que le peuple l'aime.
Alors ça nous paraît insensé aujourd'hui, Géraldine Pugier-Delbey, mais c'est la réalité. En tout cas, c'est ce que les historiens romains ont raconté après Caligula, ce bordel construit sur le Palatin pour y mettre des femmes de sénateurs.
Oui, donc là aussi, nous sommes toujours dans le domaine de la transgression la plus grave. C'est l'humiliation de l'élite sociale. Prostituer le corps d'un citoyen de condition libre est extrêmement grave parce que la différence entre l'homme et la femme de condition libre et l'esclave se situe justement au niveau du corps. Le corps du citoyen, c'est un corps qui est inviolable, alors que le corps de l'esclave... peut-être à la disposition du maître dans sa totalité. Donc, prostituer une matrone ou un jeune homme de condition libre, c'est extrêmement grave.
C'était peut-être délibéré, on dit qu'il voulait abaisser, justement, affaiblir en même temps, en l'abaissant, toute la noblesse sénatoriale de Rome. Donc, c'était un geste politique. Mais alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que franchement, vous citez 4 empereurs qui se sont succédés à la tête de l'Empire romain, Tibère, Caligula, Claude, Néron, tous les 4 font partie de ce que vous appelez des monstres sexuels.
Oui, comme si leur sexualité était le témoin d'un pouvoir tyrannique et excessif.
Et alors qu'ils utilisaient, comme bon leur semblait, Tibère avec ce qu'on appelait ces petits poissons, Caligula donc avec sa sœur, Caligula en prostituant les femmes, Claude également en épousant sa nièce, Néron, n'en parlons pas, il était constamment fourré dans les lupanars. Alors ils sont stigmatisés tous par des auteurs romains qui, au fond, affirmaient que le déclin de Rome était dû au relâchement de ses mœurs, parce qu'il y a tout un chapitre sur la morale sexuelle à Rome, et là on voit apparaître des auteurs comme Cicéron, qui parlait du sexe comme de l'ébranlement de l'âme contraire à la nature, alors qu'il n'est pas plus naturel que ça. Sénèque, les stoïciens, Marc Aurèle, Caton, Tite Livre, il y avait une morale dans toute cette histoire et des moralisateurs qui étaient offusqués par ce qu'ils voyaient.
Oui, à partir de la fin de la République, beaucoup d'écrivains sont des écrivains traditionalistes qui défendent les vertus antiques de Rome et qui sont très attristés de voir que Rome est en pleine décadence et l'attribuent à la décadence des mœurs, au relâchement des mœurs et essentiellement à la débauche des femmes, mais aussi de leur chef politique.
Et ils prônent l'abstinence. Alors vous citez aussi des auteurs, Ovide, L'Art d'aimer, Martial également, qui est, dites-vous, pratiquement l'auteur du premier Kama Sutra ou du premier traité de sexualité dans l'histoire.
Alors Ovide est un cas particulier parce qu'il va révolutionner un petit peu la conception qu'ont les Romains de la sexualité. Il va aller à l'encontre des normes traditionnelles en accordant à la femme une place tout à fait nouvelle. Il va accorder à la femme la place prépondérante au sein du couple. Il va revendiquer une sexualité de liberté en dehors du mariage, ce qui est extrêmement grave à son époque parce que nous sommes à l'époque d'Auguste, or celui-ci est en train de mettre au point toute une législation pour renforcer le mariage, pour réprimer l'adultère. Donc Ovide va à l'encontre de l'idéologie politique en cours et il va également révolutionner la sexualité parce qu'il va être le premier et le seul à revendiquer le plaisir de la femme au même titre que celui de l'homme, ce qui est tout à fait nouveau.
Et Martial, Apulée aussi.
Alors Apulée, en tant que romancier du second siècle de notre ère, lui, va inscrire dans l'écriture l'écriture érotique. Donc il est souvent cité comme le premier roman pornographique, mais il reste quand même traditionnel parce que les scènes érotiques que nous avons dans son roman, qui sont extrêmement poussées, ce sont des scènes entre un maître et une esclave.
Merci Géraldine Puccini-Delbel. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'excellent livre « La vie sexuelle à Rome » qui a été publié aux éditions Talendier. Vous avez pu entendre des extraits de plusieurs films. Caligula de Tinto Brass avec Malcolm McDowell dans le rôle titre et Peter O'Toole dans le rôle de Tibère. Un film en DVD aux éditions Metropolitan Video et qui est interdit, je le précise, aux moins de 16 ans. Le Satyricon de Federico Fellini et Covadis de Mervyn LeRoy, tous deux disponibles en DVD chez MGM, ainsi que une série américaine, Rome, en 12 épisodes, diffusée sur Canal+, et disponible en DVD aux éditions Warner Home Video. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Nadège Antonini et Céline Bonhomme. Documentation, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Mathieu Ménossi et Franck Oliva. Une réalisation de Anne Kobilac.